Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Olivier Germain-Thomas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ce qu'on appelle un écrivain voyageur, alors on a envie de rêver. Vous essayez à travers vos livres de mieux faire comprendre l'essence des cultures du monde, si je comprends bien. Vous avez séjourné dans pléthore de contrées. Vous venez aujourd'hui nous parler de votre livre « La tentation des Indes » paru en collection Folio, c'est une réédition. Je rappelle que vous êtes lauréat du prix littérature Henri Gall 2006, décerné par l'Académie française. Pourriez-vous nous raconter l'histoire de votre livre ? D'abord, est-ce que c'est une histoire ?
Oui, d'une certaine manière, c'est une histoire. En fait, c'est un itinéraire. J'aimais beaucoup l'Inde avant d'accomplir ce voyage. Ce voyage date d'il y a 33 ans. Donc, vous voyez, il s'agit d'une Inde qui a en très grande partie disparu. Et je m'intéresse beaucoup au domaine des idées. Mais pour moi, l'idée n'est valable, les cultures ne sont valables que si elles correspondent à une expérience, à une incarnation, ce que j'appelais un peu la philosophie par les pieds. Et j'avais envie, alors que les fois précédentes, j'étais allé en Inde directement par avion, j'avais envie d'accomplir tout le trajet par voie terrestre. Donc je suis parti avec mon sac à dos, de bonnes chaussures, de l'enthousiasme, depuis la gare de Lyon, Venise, l'ancienne Yougoslavie, la Grèce, la Turquie, l'Iran, en pleine révolution. Et là, ça a été pour moi aussi une sorte de révélation extraordinaire, car je connaissais mal ce sentiment de renaissance de l'islam, je l'ai vu à ce moment-là, au moment de la chute du Shah. J'ai vu ces milliers, dizaines de milliers de personnes qui hurlaient dans les rues de Téhéran, « Allah Akbar !» et qui n'étaient pas des miséreux, qui étaient la moyenne bourgeoisie. Et j'ai compris là qu'il y avait quelque chose de cette culture islamique qui faisait, pour employer un langage freudien qui n'est pas le mien en général, enfin, qui faisait partie d'une sorte de refoulement, qu'il y avait un retour du refoulé et que ça allait avoir probablement des conséquences. Ce que j'indique d'ailleurs dans ce livre. Alors ensuite, je prends un train pour Meshed, ensuite toute la traversée de l'Afghanistan au moment où les Soviétiques s'y installent, la passe de Khyber, ça c'est formidable parce qu'Alexandre est passé par là, Babour est passé par là, et c'est étroit comme votre studio, la passe de Khyber, enfin deux fois plus, et les envahisseurs ont pris, et ce que je voulais voir, c'est pourquoi à partir du plateau afghan, on a envie de descendre vers ce qui est aujourd'hui le Pakistan, donc la vallée de l'Indus. Et quand on le vit physiquement, mais on est dans des rochers, on est dans un pays sauvage, avec un peuple magnifique, ce peuple afghan, et on arrive dans le pays de l'eau, des couleurs, des fleurs, de la prospérité et de l'abondance. Donc j'ai beaucoup mieux compris pourquoi tous les envahisseurs ont voulu passer par là. Voilà, ensuite traverser du Pakistan et ensuite l'Inde. Ouf.
Tout cela paraît très beau, mais des difficultés, j'imagine, vous avez eu à faire face.
Des enchantements et des difficultés, des risques.
Vous pouvez nous parler, par exemple, d'un moment très difficile. J'imagine que l'Iran n'a pas dû être si simple que ça.
Là où j'ai eu le plus peur, c'est en Afghanistan. Pourtant, j'étais enchanté par cette ville, Herat. C'était vraiment le Moyen-Âge. Il n'y avait pas une voiture, c'était avec des voitures à cheval. Un peuple d'une noblesse extraordinaire. Et puis, un Allemand, archéologue, me dit qu'il a quelque chose à me montrer dans les montagnes. J'accepte de le suivre dans son 4x4, on part en voiture dans les montagnes, et mon intuition commence à sentir que quelque chose est bizarre, il s'arrête, il me laisse tout seul, et à ce moment-là, je vois des guerriers qui sortent. Et je me suis dit, c'est un piège, il n'y a pourtant pas d'enlèvement à ce moment-là, ce n'était pas encore la mode, ça l'est devenu, hélas, après. Et je me suis demandé pourquoi j'avais accepté comme une andouille. Et ce n'était pas ça, c'était des gens qui voulaient me montrer leur attachement à leur culture, et qui m'ont donné un concert extraordinaire. Mais c'était des guerriers quand même. Et cet archéologue voulait me montrer que ces gens-là seraient capables de résister aux Russes, ce qu'ils ont fait. Donc ce n'était pas encore les talibans, mais c'était à nouveau ce que j'avais déjà constaté en traversant l'Iran, c'est qu'on ne peut pas éradiquer le fond profond de l'imaginaire d'un peuple. Donc là, j'en ai eu deux expériences, coup sur coup, en Iran et en Afghanistan, qui ensuite... l'Iran, la révolution est une catastrophe pour le peuple, et l'Afghanistan, après les Russes, il y a eu la catastrophe des talibans et la catastrophe de la guerre actuelle. Mais le constat, et c'est le même constat que j'ai fait ensuite en Inde, c'est que malgré tout ce qu'on raconte, comme bobard sur la mondialisation, on ne coupe pas les racines culturelles d'un peuple.
Et c'est peut-être la raison pour laquelle le livre est réédité, parce qu'il est toujours d'actualité au fond.
Oui, enfin d'actualité, l'Inde a tellement changé en 33 ans, en dehors peut-être de certains villages où on pourrait retrouver l'atmosphère de ce livre.
Mais ce fond d'imaginaire dont vous parlez, il est toujours vivace.
Oui, l'Inde a du mal en ce moment avec son propre passé, parce qu'il y a une telle revanche à prendre par rapport à la misère et à l'humiliation, que pour le moment, l'Inde se jette d'une manière un peu excessive et inconsidérée dans la production, tout ça est anti-écologique, mais je pense, je reste absolument persuadé, comme vous venez de le rappeler, là, que le fonds culturel de l'Inde ne peut pas mourir comme ça. D'ailleurs, on l'a bien vu avec la Russie, quand même. Toutes ces années de communisme, d'éradication des racines religieuses, et la religion orthodoxe qui ressurgit d'une manière étroite, hein, faut bien voir les choses, mais pourquoi est-elle étroite? C'est parce qu'elle est obligée de se défendre et que toute personne qui se défend ne peut pas avoir l'esprit complètement ouvert. Donc ça, c'est une autre affaire.
Quel pays vous a marqué le plus, du point de vue de la beauté?
Paysage, l'Afghanistan. Noblesse des visages, l'Afghanistan. Attachement affectif personnel, l'Inde. Mes racines culturelles, et en avançant en âge, je me rends compte de plus en plus, mes racines culturelles sont grecques. Je suis grec, dans le fond. Et je m'aperçois de plus en plus. Chaque année, je relis Eschyle, Sophocle, pas la totalité. Enfin, Eschyle, ce n'est que 9 pièces. Toutes les autres sont perdues. Mais je relis des textes grecs. Je suis profondément imprégné de cette culture. Et j'ai compris quelque chose. Parce que je me posais tout le temps la question, pourquoi aller en Inde? Ce n'est pas une tradition familiale chez moi. J'ai la chance d'être né dans une famille de lettrés où on avait une tradition humaniste, mais européenne, euro-méditerranéenne. Je vois encore ma mère sur le forum, les leçons de latin, voilà. C'était ça notre culture. Et j'ai compris, je crois que je le dis d'ailleurs dans ce livre, La tentation des Indes, j'ai compris que ce que j'allais chercher en Inde, c'était une Grèce vivante. C'est-à-dire un lieu où les mythes sont encore vécus comme une réalité. Ce qui était le cas dans la Grèce ancienne, ce qui n'est plus tout le cas dans la Grèce d'aujourd'hui. Et là-bas, je retrouve Eschyle. En fait, Eschyle vivant, je le trouve en Inde et non pas en Grèce.
Quel est votre quotidien dans ce type de voyage?
Ça varie selon les pays, complètement. Il y a des moments où c'est l'enthousiasme, il y a des moments où ce sont des hôtels de 4e catégorie, il y a des moments où il faut un peu se reposer, où je me paie quand même des draps propres. Il y a des heures et des heures et des heures passées à attendre dans les frontières. Chacune des frontières, là, se passait pratiquement à pied. Il y a des heures et des heures dans des cars, des moments où on a marre, on se demande ce qu'on fait entre les moustiques, la faim, la chaleur, alors qu'on pourrait être bien tranquille à Paris, du côté de la Seine, dans un bon fauteuil pour lire Eschyle. Bon, ben voilà, donc le quotidien, il varie, il monte, il descend. C'est difficile, il n'y a pas de journée type, parce qu'il y a des journées de contemplation, rares, mais il y en a quelques-unes. Et puis, très souvent, en l'occurrence, dans cette affaire-là, il y a des journées de voyage. Et puis, il y a la seconde partie du livre, là, je vous ai parlé de l'itinéraire. Il y a l'arrivée en Inde. Et la recherche d'un maître. Car grâce à l'indianiste Tara Michael, j'avais l'adresse et le nom d'un grand maître de la méditation bouddhique Vipassana. Et il s'est passé ce phénomène étonnant. À chaque fois que j'allais quelque part où il devait être, il venait de partir. Mais ça m'est arrivé 4-5 fois. On me disait « Ah oui, oui, il est là-bas, allez-y, allez-y. »
C'est dû à quoi, selon vous?
Que j'étais pas prêt, c'est ce qu'on dit. Et que je ne l'ai rencontré que quand intérieurement, certains désirs, peut-être, étaient tombés, s'étaient estompés, donc j'étais prêt à m'abandonner.
Voilà. La méditation, ça vous attire? Pourquoi? C'est le bouddhisme ou c'est la méditation?
C'est les deux. C'est les deux. C'est une ouverture de la conscience et c'est un effort pour essayer d'aller dans des zones de notre psyché dans lesquelles l'intellect n'a pas part. Et je sais que j'ai un intellect qui est trop souvent présent et ça pourrait être du sport. D'ailleurs, dans un autre livre, je dis que la conduite à moto en Inde, c'est aussi une forme de méditation, car vous ne pouvez pas réfléchir. Ça ne doit être que complètement instinctif.
Donc la méditation, c'est ne pas réfléchir, en fait.
La méditation, c'est d'ouvrir à l'intérieur de soi des portes qui souvent sont fermées et qui vous ouvrent dans un état de conscience auquel vous n'êtes pas habitué. Mais c'est aussi essayer de chasser le mental et de se rendre compte que les idées qui vous traversent, les désirs qui vous traversent, sont éphémères et doivent partir comme une feuille au vent.
Vous posez des questions philosophiques dans ce livre, je vais en citer deux. Changerions-nous notre vie si nous avions la certitude que notre visage serait exposé, momifié, au regard des siècles futurs? Ne faudrait-il pas chercher à donner à nos traits une qualité de présence susceptible d'affronter les temps à venir?
Mais ça, je crois que c'est dans un musée, je vois une momie, je vois que la momie est belle, et je me dis, si pendant 4000 ans, on allait exposer mon visage, est-ce que j'essaierais pas de travailler un peu plus? Voilà. Mais j'ai pas de réponse, et puis...
La question du temps, ça vous tracasse un peu?
Ah, bah bien sûr.
Est-ce que c'est pour ça que vous effectuez des voyages?
Oh, il y a mille raisons. Peut-être le temps. Il y a la curiosité, il y a la joie du voyage, il y a la joie de la découverte. Mais je crois que le fond du fond, c'est l'élargissement. On a la chance, en étant français, d'appartenir à une culture ouverte vers l'universel. On l'a été grâce à la religion chrétienne, catholique, universelle. On l'a été avec l'humanisme, on l'a été avec l'idée de la France qui devait être une idée mondiale, les droits de l'homme. Et je crois qu'aujourd'hui, s'il y a encore quelque chose à faire, et j'en suis absolument persuadé, si la France a encore vraiment un message à apporter au monde, c'est un message d'universalité. Mais pour saisir l'universalité, c'est pas dans les colloques où on en discute. Ça, c'est du blablabla. C'est d'aller voir sur place comment vivent des êtres et essayer de saisir leur imaginaire.
Et on reproche beaucoup aux Français de ne pas assez le faire, de ne pas assez s'ouvrir vers l'extérieur. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Allez-y, mais n'y allez pas en groupe n'importe comment. Allez-y, plongez. Et s'il s'agit de l'Inde, puisqu'on parle beaucoup de l'Inde avec vous... S'il s'agit de l'Inde, prenez des trains, c'est formidable l'expérience des trains, vous restez 2-3 jours, mais vous ne comprenez pas les langues qu'ils parlent, parce qu'il y a au moins 60 langues, il y en a même encore plus. Vous avez des biscuits, votre voisin d'en face a un morceau de galette, il vous donne un morceau de galette, vous donnez un biscuit, vous regardez comment il se conduit avec ses enfants, comment il est avec sa femme, et vous restez comme ça pendant 2-3 jours dans cet état de communion. Eh bien, il y a quelque chose quand même de l'universalité, il y a quelque chose de l'humanité qui arrive à surgir grâce à ces expériences. Donc je réponds, allez-y, mais allez dans les villages, vivez, vous connaissez cela vous avec la Birmanie, vivez avec éventuellement des défavorisés, vivez dans les différents milieux sociaux, ayez des amis sur place qui vous guident, qui vous conduisent, et restez vous-même.
Mais la France étant universelle par définition, selon vous, en bonne posture?
Elle devrait, elle n'est pas toujours fidèle à elle-même, mais moi j'essaie d'y être, à ma modeste place.
Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de ce livre?
Un regard. Alors, les qualités littéraires, c'est pas à moi d'en parler, mais disons que ce qu'il met dans ce livre, qui s'est développé dans d'autres, encore plus dans le Benares Kyoto, encore plus dans ce petit livre publié, un tirage limité qui s'appelle Asie, c'est les différents plans. Vous avez parlé de philosophie, oui, il y en a. Il y a de la sensualité prise dans le sens large, c'est-à-dire que j'essaie de faire vivre les odeurs, la beauté, un sari au vent, la nourriture, les saveurs. Et il y a de l'imagination. De temps en temps, je raconte un peu des histoires imaginaires. Et dans le fond, au fur et à mesure, ce livre est ancien, mais maintenant je vois mieux ce qu'est manière d'être. Je ne dis pas qu'elle est bonne, mais je dis que c'est la mienne, c'est tout ce que je dis. C'est le refus complet d'entrer dans une seule catégorie. Ce n'est pas du journalisme et du reportage. Ce n'est pas du narcissisme. Ce n'est pas un livre de philosophie. Ce n'est pas un voyage complètement imaginaire. C'est tous ces plans qui sont les plans de la vie, car nous vivons tous sur tous ces plans. C'est tous ces plans qui doivent se succéder un peu comme une musique, en pensant à cette merveilleuse phrase de Mozart, « J'assemble les notes qui s'aiment ». Donc faire en sorte que d'une séquence à une autre, les choses puissent se marier les unes avec les autres et pouvoir être dans tous les plans, le mental, le sensuel, l'imaginaire.
Est-ce que l'appel de l'ailleurs est constant chez vous?
Il continue, voilà. Donc j'ai quand même attrapé de la bouteille depuis ce livre, mais récemment encore, il y a 2 mois, je me trouvais à nouveau au Cambodge avec un enthousiasme exceptionnel, pour encore bien sûr, mais surtout pour ces temples perdus dans la jungle, où on peut maintenant aller, puisqu'ils ont été déminés, et où il n'y a personne.
Qui se situe où? À Siem Reap également ou
Non, plus loin. Il faut prendre des petits bus, il faut dormir dans une petite ville, je ne vais pas donner tous mes secrets là, mais je vais en parler dans un livre suivant. Enfin écoutez, je vais vous donner le nom d'un temple quand même, ce qui est Bante Ashmal, il faut aller dormir dans cette ville qui s'appelle Sisophone. Et de là, vous prenez une sorte de tuk-tuk ou une moto sur une route poussiéreuse. Vous avez les 3 heures de poussière et vous êtes devant un temple sublime. Et vous pouvez rester une journée pratiquement tout seul dans ce temple.
Ils sont très beaux, les temples cambodgiens. On va tous partir tout de suite au Cambodge. Merci beaucoup, Olivier Germain-Thomas, d'être venu nous parler de ce livre, La Tentation des Indes, une réédition en folio. Donc si vous souhaitez voyager, partir un petit peu, découvrir toutes les Indes, en passant par l'Iran et l'Afghanistan, à une époque où il s'est passé beaucoup, beaucoup d'événements, n'hésitez pas à lire ce livre. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission et à très bientôt.
Merci.